Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Muriel Pérez. À la technique ce matin, Julien Michel. Porter son regard cette semaine sur le film L'Armée des Ombres du fabuleux Jean-Pierre Melville, sorti en 1969 et adapté du roman éponyme de Joseph Kessel. Le héros, incarné par Lino Ventura, est une haute figure de la résistance dans la France occupée de 1942. Entre les menaces de la Gestapo et les diverses trahisons de ses pairs, une vigilance quasi paranoïaque et une âpre solitude sont de mise. À ce sujet, Melville met en scène un détail bouleversant dans une maison abandonnée où son héros, traqué et blessé, trouve refuge pour plusieurs mois. En inspectant une étagère, ce dernier découvre une pile de livres de philosophie mathématique au titre sibyllin, signé d'un grand intellectuel qui se trouve aussi être le chef de son réseau. Il pose alors la main dessus comme s'il en tirait de la chaleur et sourit. Désormais, il n'est plus seul. Notre invité est un pianiste prodige dont l'œuvre foisonnante décloisonne les genres. Il vient de sortir chez Warner Classics un disque hommage au cinéma, reprenant une cinquantaine de morceaux de bandes originales emblématiques. Des concerts auront lieu en octobre et novembre, je donnerai toutes les dates à la fin, et notamment le 30 novembre au Théâtre des Champs-Élysées, le 6 décembre à l'Opéra de Rouen. Et en 2023, notre invité donnera le spectacle qu'il a imaginé avec la chanteuse Angélique Kidjo à l'Auditorium de Lyon. Ce sera le 23 avril, sous le beau nom Les Mots d'Amour.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Alexandre Tarot.
Bonjour.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
Oh bah oui, ça n'a pas toujours été rigolo, mais je suis content. Je suis content d'avoir eu jusqu'à maintenant cette vie-là, avec ses puits, ses zones d'ombre, mais aussi ses soleils, ses lumières, ses bonnes surprises. Et tout cela est venu d'une rencontre entre un homme et une femme, l'un qui était chanteur d'opéra et d'opérette, et sa future femme qui était danseuse. Ils se sont retrouvés lors d'une tournée. Ils n'étaient pas dans le même spectacle, mais ils se sont retrouvés à Lille. Et puis ils se sont promenés ensemble, et puis ils se sont mariés, ils ont fait deux enfants, ma sœur et moi.
C'est la première fois qu'on commence par une genèse, la création de l'invité. c'est amusant. Alexandre Tarot, comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Pas facile. Pas facile. Je suis pas facile à supporter 24 heures sur 24.
Comment vous faites ? Vous vous échappez ? Vous vous fuyez ?
Alors, je me fais beaucoup de méditation, et la méditation permet de se recentrer, surtout de converser avec l'être profond que l'on est, qu'on ne connaît pas, en tout cas qu'on ne connaîtra jamais, vers lequel on tend, que l'on interroge, mais qu'on ne connaît pas vraiment.
Ça, on va y revenir, puisque vous avez choisi un livre, justement, qui aborde le sujet. Vous confiez, mais commençons par le début de la journée, vous confiez avoir du mal à vous lever. Dans votre récit autobiographique « Montrez-moi vos mains », vous revenez sur vos insomnies installées depuis longtemps, les pilules que vous preniez et les cauchemars d'animaux qui vous mordaient et dont je crois vous êtes débarrassé. Enfin, vous êtes en bonne
cauchemars
entente.
Cauchemars d'animaux, oui. Oui, mais les insomnies, non, je fais partie de cette grande famille des insomniaques. C'est toujours difficile d'en parler parce que seul un insomniaque peut réellement comprendre un autre insomniaque. Et le manque de sommeil, c'est une torture. Donc je vis avec cela et je trouve des solutions parce que je pense que la vie, elle est là pour nous faire trouver des solutions pour tout. Et je ne désespère pas de dormir un jour.
Avez-vous peur de la nuit ?
J'avais peur du noir quand j'étais enfant, de l'obscurité. Maintenant, l'obscurité me parle. Je trouve que je sens des présences. Pour moi, les présences de la nuit sont plutôt bienveillantes.
Alexandre Tarot, vous dites que vous êtes un obsessionnel du travail, que vous travaillez tout, pas que le piano, les relations amoureuses, amicales, les heures de méditation, de piscine, de yoga, de gymnastique et vos insomnies. Comment travaille-t-on ces insomnies ?
Parce que l'insomnie, elle vient de loin. C'est pas les causes peuvent être multiples, et donc il y a plusieurs manières de les travailler avec des médicaments. Là, j'ai pris assez de somnifères. J'ai même pris des somnifères à partir de 14 ans. Quand je suis rentré au conservatoire de Paris, j'avais un professeur qui me traumatisait pas mal, et j'ai perdu le sommeil en quelques semaines. Donc j'ai commencé à prendre des somnifères. Je n'ai pas arrêté jusqu'à l'âge de 28 ans. Toutes les nuits, j'ai pris un somnifère de 14 ans à 28 ans. Donc ça m'a pas mal détruit. Ma mémoire, par exemple, c'est la raison pour laquelle je joue avec partition tous mes concerts aujourd'hui. Donc les somnifères, c'est pas la meilleure solution, mais parfois, il n'y a pas autre chose. Et puis ensuite, il y a toute une batterie de médecines qu'on appelle bêtement alternatives, mais qui sont parfois très, très puissantes. Et puis aussi le yoga, comme je disais, la méditation, le fait d'aller à la piscine, là j'y vais moins depuis le Covid, mais avant j'y allais tous les deux jours. Le sport, enfin voilà, on fait chacun sa petite cuisine.
Ce qui vous donne envie de vous lever, en tout cas Alexandre Tarot, ce sont deux choses. L'envie de faire pipi, ce qui est très honnête, parce que c'est, je veux dire, je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître dans ça. Et l'odeur du chocolat. Et ça m'a vraiment surprise, puisque j'ai imaginé des êtres chez vous qui agitaient du chocolat sous votre nez pendant que vous dormiez.
Non, j'aimerais bien. Parce que je suis fou du chocolat, et avoir du chocolat devant moi, vous me mettez trois tablettes entières de chocolat, je les mange dans les cinq minutes, je peux pas m'arrêter. Alors, j'ai répondu ça parce que vous m'avez envoyé un questionnaire, ouais. Et je ne savais pas vraiment quoi répondre, parce que je ne prends pas de petit déjeuner le matin. Et je suis plutôt un lève-tard, c'est pas agréable de se lever quand on est lève-tard. Et donc j'ai pensé à ça, parce que c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui pourrait me donner envie de me lever d'un bond, c'est un bon chocolat.
Dans un instant, il sera entre autres question de Shunryu Suzuki, de Barbara, de Bach, d'Angélique Kidjo, de Beethoven, de Musculature et de Retrepa. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Sur France Inter, nous sommes avec Alexandre Tarot, à qui j'ai demandé ce qu'il aimerait changer dans son environnement. Je cite votre réponse. « J'aimerais m'investir davantage dans la préservation de notre planète. Les solistes sont de gros contributeurs de CO2. On a un immense travail devant nous. » Mais il n'y a pas de possibilité de limiter les voyages en avion.
Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, le marché de la musique est fait comme ça. C'est-à-dire qu'on nous fait traverser le monde pour un concert. En général, quand je vais au Japon, c'est minimum pour 3 concerts. Mais c'est quand même peu, finalement. Quand vous pensez qu'on vise 2 tonnes de CO2 par an par personne, on en est à 10 tonnes en moyenne en France, et qu'un aller-retour Paris-Los Angeles en business class, c'est déjà 7 tonnes. Et la business prend la place de 2 économiques, donc c'est 2 fois plus. Mais pourquoi on prend un siège en business? Pourquoi on l'accepte plutôt? Et bien parce que on va pouvoir dormir et ainsi jouer pas trop mal en arrivant. Donc je pense que on doit tous prendre conscience, alors promoteurs, organisateurs de concerts, agents, maisons de disques et artistes surtout, qu'il faut trouver des solutions. Encore une fois, trouver des solutions. Déjà, prendre moins l'avion. Mais vous savez, en ce moment, je prends beaucoup l'avion, c'est vrai. Mais il y a presque toujours des retards. C'est terrible les aéroports en ce moment. Ça marche pas, il n'y a pas assez d'avions, il n'y a pas assez de personnel, donc les transferts, on les chope pas, donc on doit reprendre un avion le lendemain. C'est très compliqué. Alors que le train, c'est un peu plus long, mais finalement, si on compte l'attente, le trajet jusqu'à l'aéroport, et quand on arrive, pareil, c'est pas forcément beaucoup plus long. Et puis, les tournées lointaines, comme en Asie, ou en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, on devrait en faire qu'une par an. Mais
vous, voilà. Vous seriez d'accord, en tout cas, pour accepter...
Ben oui, c'est ce que j'essaye de faire. L'année prochaine, la saison prochaine, je vais faire une tournée en Asie. Et une fois en Asie, je vais prendre des avions quand même. Je vais rester un mois. Je fais mes des petits trajets et revenir.
Le cri d'émerveillement d'un jeune autiste américain lors d'un concert de musique classique a ému spectateurs et internautes. Malheureusement, les réactions inattendues de personnes présentant des troubles mentaux ne sont pas toujours aussi bien accueillies par le public. C'est pour cette raison que Catherine Morange a cofondé il y a bientôt 15 ans Ciné Ma Différence.
Immédiatement, les chutes, les regards désapprobateurs, les remarques très déplaisantes font en sorte que la personne elle-même se sent vraiment stigmatisée et la famille sort très rapidement. Donc ce qui devait être normalement un moment de plaisir partagé se transforme en une épreuve.
Le label Relax, ce sont des séances de cinéma et maintenant des spectacles vivants avec le public habituel, mais où les personnes handicapées reçoivent un accueil et un accompagnement bienveillant.
Le principe des concerts relax, entre autres, expliqué par Hélène Chevalier en décembre 2019 sur France Inter. Vous êtes, Alexandre Tarot, parrain de ces concerts, des concerts relax mis en place par l'association Culture Relax pour ouvrir les salles de concerts de théâtre et d'opéra aux personnes dont le handicap entraîne des comportements atypiques. Je cite le communiqué, autisme, handicap mental, polyhandicap. Il y a un concert à la Maison de la Radio bientôt le 10 novembre à 20h à l'Auditorium. Ce sera Ibrahim Malouf. Quelles sont la particularité de ces concerts?
D'abord d'être ouvert à tous les publics. Ensuite d'avoir une équipe en gilet jaune, mais ce sont d'autres gilets jaunes, qui rassurent les personnes en situation de handicap. Et puis ensuite une préparation, une note dans le programme qui invite le public habituel qui le prépare à d'éventuels bruits ou réaction, comme on a entendu à l'instant, mais c'est charmant. Il faut pas oublier qu'à l'époque de Mozart, par exemple, il y avait beaucoup de bruit dans la salle. Mozart pouvait se arrêter en plein milieu d'un concerto avec un orchestre, il saluait parce que les gens applaudissaient, puis il recommençait. À l'Opéra de Paris, on pouvait se faire livrer des repas dans l'arrière des loges. On oublie tout ça, et c'était au 19e siècle, hein, ça. Et donc aujourd'hui, enfin, à partir de la fin du 19e siècle, le silence de Pierre Tombal s'est abattu sur ce rituel du concert. Mais finalement, le silence n'existe pas. Peut-être au Japon, où le public est d'un silence assez incroyable, mais il renvoie quand même une certaine chaleur à l'artiste. Mais à Paris, par exemple, on commence un concert et les premiers quarts d'heure n'est qu'une suite de tout et de gens qui bougent et les autres qui sont pas contents, ils font chut. Il y a une espèce de guerre comme ça entre deux équipes. Donc on est plus proche du 19e siècle que du silence imposé aujourd'hui.
Vous défaites l'inventaire d'ailleurs de toutes les toux lors des concerts que vous entendez. Vous entendez toutes les toux des spectateurs, les gens qui font chut, qui aggravent la situation. Et vous devez rester concentré sur la scène.
Parce que sur scène, on entend tout, on voit tout. Et c'est assez drôle parce qu'un pianiste est de profil par rapport au public. Et on se rend compte, quand on est pianiste, que l'on voit encore mieux de profil. Les chanteurs qui sont face au public ne voient pas forcément tous les détails. Alors que nous qui sommes de profil, on voit tout, on entend tout, on ressent tout. Beaucoup plus que les personnes qui sont dans la salle. Donc pour revenir au concert relax, C'est une association qui fait un travail formidable depuis des années. On a entendu Catherine Morange qui a créé cette association qui s'appelle maintenant Culture Relax. Et moi, je suis parrain des concerts relax qui sont qui essayent de faire ouvrir les salles de concert à tous les publics, et ce n'est pas facile. Maintenant, on a l'Opéra Comique, depuis plusieurs années, la Philharmonie de Paris, qui fait un gros effort, Radio France, et quelques autres salles qui vont s'y mettre, mais il y a un gros travail, et on sait bien qu'il va falloir de nombreuses années pour ouvrir toutes les salles de concert à des publics différents qui peuvent avoir une réception différente à la musique. Il ne faut pas que ça gêne les autres.
Radio France est partenaire, il y aura plusieurs concerts relax. Ouais. N'hésitez pas à regarder, chers auditeurs, sur le site de Radio France. Une anecdote, Alexandre Tarot, puisqu'on parle de salles de concert, peux-tu vous construisiez des maquettes de salles de spectacle ?
Ouais. Parce que mon père était metteur en scène, après avoir été chanteur, il mettait en scène des opérettes dans le nord de la France, et ma mère qui était chorégraphe en faisait les ballets. Je dansais moi-même, je faisais de la figuration dans ces spectacles le week-end. Et donc, qu'est-ce que je voulais faire? Ben, comme mes parents, je voulais mettre en scène. Et puis surtout, j'avais détecté cela en moi, c'est que je me sentais mieux sur scène et dans les coulisses des théâtres que partout ailleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, je trouve que la vie est très fade. Et par contre, une fois qu'on est sur scène, je vais parler à la première personne, parce que c'est pas le cas de tout le monde, j'imagine, ou dans les coulisses, dans les loges, dans les couloirs poussiéreux autour de la scène, vous voyez tout ce qui est derrière, tout l'interdit, tout ce monde magique. Mais je vis les choses à 1000%. Et donc, déjà enfant, j'avais compris ça. Je savais que c'était là, chez moi, là où j'allais vivre le mieux et le plus intensément. Donc, je recréais des petits théâtres, des petites scènes, des petits décors avec du scotch, des crayons de couleur et du papier.
Vous le faites toujours? Parce que là, vous venez de le dire au présent.
Ah, j'avais l'impression de parler au passé. Mais
oui, vous venez de dire, je fais toujours.
C'est peut-être un beau lapsus à travailler.
On entend le morceau Pierre, prélude sur votre album Barbara, sorti en 2017, une reprise de la chanson éponyme de la Grande Dame. Certains des artistes et œuvres qui ont changé votre rapport au monde, Alexandre Tarot, se confondent aussi avec les jolies choses que vous recommandez aux auditeurs. C'est le cas de celle à laquelle vous avez plusieurs fois rendu hommage, notamment avec la création du spectacle Vaille que vivre avec Juliette Binoche, inspiré du livre Il était un piano noir, mémoire interrompue de Barbara. Vous êtes membre d'honneur de l'association Barbara, vous avez un immense portrait d'elle dans votre chambre, je n'y suis pas allée en votre absence, j'ai lu votre livre, et vous l'avez vu à 17 ans au Théâtre du Châtelet, puis vous êtes allé régulièrement voir ses concerts, jusqu'au concert où la voix était très abîmée.
Oui. Que dire, c'était une grande leçon de
vie.
De vie, et puis aussi, c'est toujours, parce qu'on peut l'écouter, chanter toute sa vie, c'est unique dans l'histoire de la chanson, une artiste comme ça, qui n'écrit que des chansons sur son parcours, et qui est arrivée, grâce à la chanson, et surtout grâce à nous, son public, grâce à la scène, à s'émanciper, à survivre, je dirais, après les atrocités qu'elle a vécues pendant son enfance. Donc une grande leçon de vie, une grande leçon de scène aussi. Quand je l'ai vue pour la première fois, donc à 17 ans, j'ai vu une femme, c'était son premier Châtelet, donc en 1987, donc je devais avoir un peu plus que 17 ans, je m'en rends compte. J'ai vu une artiste qui donnait tout sur scène, mais réellement tout, qui ouvrait une sorte de plaie comme ça sur le torse, comme si elle ouvrait ses entrailles et qu'elle faisait tout déverser sur scène. Et c'était, en quelque sorte, la seule manière pour elle d'être honnête et de se livrer à nous. Et de tout nous donner, beaucoup plus qu'à tous les amants qu'elle a pu avoir dans sa vie. Et elle aussi vivait les choses à 1000% sur scène, et la vie à côté n'était pas si heureuse. Donc j'ai pris ça pour moi. Je me suis dit, bon, il y a un moyen de vivre la scène de cette manière-là, presque sacrificielle, c'est-à-dire vraiment s'ouvrir totalement, ne rien cacher. Et ça a changé beaucoup de choses dans mon jeu, dans ma manière de jouer, mon rapport au public, mon rapport à la scène, évidemment. Et j'ai décidé, à partir de ce spectacle-là, ce jour-là, je me souviens, c'était la dernière, donc un dimanche après-midi, je suis sorti en titubant de la salle. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je ne me prenais pas pour Barbara, je n'étais pas chanteur, je ne faisais pas de la variété, de la chanson. Je savais que la musique classique n'embrasse pas une salle de cette manière-là. Mais c'était comme ça que je voulais vivre la scène.
C'est pour ça aussi que vous faites beaucoup de collaborations avec des chanteurs de variété française.
Moi, je trouve que les chanteurs, les chanteurs en général, qu'ils soient lyriques, d'opéra ou de chansons, d'abord, ce sont nos maîtres à nous, instrumentistes. On essaye de les imiter avec notre instrument, en l'occurrence le piano, fait de très mécanique, hein, fait de bois, de métal, d'ivoire, de synthèse, de laiton. Mais ce sont aussi des gens qui m'inspirent parce que ils peuvent être très fragiles. Ils sont tous très fragiles. Les chanteurs sont vraiment des petites fleurs comme ça. Il faut faire très attention. Et j'aime les accompagner, les enrober avec mes bras. Vous voyez, quand on accompagne un chanteur ou une chanteuse, on est là justement pour les rassurer, mais aussi pour les enrober, un peu comme un édredon. Faut pas être trop chaud, pas trop, faut pas qu'ils aient froid. Et j'aime cette place-là.
C'est amusant parce que sur votre album Hommage à Barbara, je crois que c'est Barbara qui semble vous enlacer.
Oui, mais elle m'enlace.
Oui.
Elle m'enlace, Barbara, elle me comprend. À l'adolescence, je l'écoutais, donc dans mon lit, je faisais déjà des insomnies, et j'avais l'impression qu'elle me connaissait mieux que personne.
Voici un autre extrait, Alexandre Tarot, appartenant aux belles choses que vous recommandez et qui vous aide à faire face au monde. Les variations Goldberg de Bach par la pianiste virtuose Zhou Xiaomei, je le prononce à la française, enregistrée en 2007, je le précise, puisqu'elle a enregistré à 3 reprises les variations Goldberg, dont une fois sur la tombe de Bach à Leipzig, paraît-il. Variation que vous avez vous-même enregistrée en 2015, Alexandre Tarot. Pour information, on entend la numéro 14. Vous avez joué en Chine avec elle, enregistré un album avec elle, et je crois que c'est devenu une amie.
Oui, c'était une amie avant qu'on joue ensemble. Quand on est amis et artistes, on a tout de suite envie d'être sur scène ensemble. Ben c'est surtout une femme incroyable, une grande leçon d'humanité, mais ça se sent, vous voyez le son qu'on vient d'entendre, cette texture sonore, et pourtant c'est une des variations Goldberg, rapide, virtuose, mais c'est un son doux, enveloppant, qui détecte le monde. C'est une femme qui a vécu pendant la Révolution culturelle, qui a été enfermée dans un camp de travail pendant 6 ans, et qui ensuite a pu s'échapper de la Chine et est arrivée aux États-Unis. Elle en a fait un livre qui est magnifique.
Et, La rivière et son secret des camps de Mao à Jean-Sébastien Bach.
C'est ça. Et ensuite, elle est arrivée en France, où elle a été adoptée par ce pays, où elle a eu beaucoup d'amis très chers. Et je pense que son enregistrement, ses enregistrements des variations Goldberg font partie des grandes références. En tout cas, à écouter.
C'est avec elle que vous avez réellement ressenti que la musique pouvait sauver une vie.
Ah oui, la musique l'a sauvée. Ça, mais elle en parlerait mieux que moi, je ne veux pas parler à sa place. Mais je pense que, en tout cas, c'est ce que l'on lit dans son livre.
Alors parlons de Bach, si vous le voulez bien, Alexandre Tarot. C'est celui que vous travaillez le plus, celui qui vous guide le plus. Vous avez un sentiment de communion quand vous interprétez les variations Goldberg. Et vous avez dit sur France Musique, quand on joue Bach, on n'est pas seul.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je trouve que Bach nous fait... C'est comme la méditation, en fait. Il nous recentre. Je trouve qu'il fait du bien à tout le monde. En venant ici, j'ai pris un taxi qui était de très mauvaise humeur et qui râlait après tout. Et je me disais justement, mais s'il pouvait ouvrir la radio, si je pouvais lui faire écouter un petit peu de Bach, je suis sûr que ça lui ferait du bien. Et c'est vrai. D'ailleurs, il y a beaucoup de taxis à Paris qui écoutent les radios de musique classique ou des disques de musique classique. En tant qu'interprète, et ça c'est un conseil que je donne à tous les gens qui jouent un peu de musique, ça va pas, vous vous levez, vous êtes de mauvaise humeur, pas autant que le taxi de tout à l'heure, j'espère, mais voilà, vous vous sentez mal, vous avez trop bu hier soir, vous prenez une partition de Bach, si vous en avez une chez vous, et si vous jouez d'un instrument, puis vous travaillez juste les deux premières mesures, comme ça, sans souci de temps. Une minute, une heure, on s'en fout. Et voilà, face à la partition, puis vous travaillez, si vous êtes pianiste, un peu la main gauche, un peu la main droite, dans des mouvements intermédiaires, un peu plus rapide, un peu plus lent. Vous essayez de comprendre cette musique, la réaction de votre corps et de votre cœur. Et ça fait un bien fou. C'est tout simple, hein. C'est pas grand-chose. Faut-il encore jouer d'un instrument ?
Oui, là j'envie les gens qui jouent d'un instrument. Alexandre Tarot, et j'aimerais vous interroger sur la lassitude, parce que là je pense à deux choses en parallèle. Bach, dans la première partie de sa vie, copiait inlassablement les partitions sur lesquelles il tombait, et vous, je ne vais pas vous interroger sur le fait que vous n'ayez pas de piano chez vous délibérément, puisque tout le monde l'a fait et vous n'en pouvez plus de cette question, mais je sais que vous avez un côté obsessionnel, et qu'il y a un ami qui vous prête un appartement qui a dû enfermer les partitions dans un placard parce que sinon vous les prenez, vous les déchiffrez pendant des heures de façon obsessionnelle. Vous écoutez souvent, j'imagine, les musiciens que vous admirez, comme Bach. N'y a-t-il jamais de lassitude quand c'est la millième fois que vous répétez quelque chose ou que vous écoutez quelque chose ou dans l'entraînement du musicien de haut niveau qui est sans cesse recommencé, sans cesse... Enfin, ça rejoint le zen dont on va parler tout à l'heure, mais la persévérance.
Bien sûr qu'il y a de la lassitude, hein. De la lassitude dans le travail quotidien au piano. On n'a pas forcément envie de reprendre telle œuvre que l'on doit jouer la semaine prochaine. Mais le répertoire est gigantesque, donc on doit se renouveler sans cesse. Ensuite, il y a une lassitude dans les voyages. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile à vivre. Les hôtels, les voyages, l'attente, dans les salles d'attente d'aéroport, de car, dans les chambres d'hôtel, dans les loges avant les concerts. Il y a de la lassitude, mais il faut trouver une parade. Alors on peut écrire des livres, comme je l'ai fait avec Montrez-moi vos mains. On peut se bousculer un peu. On peut se bousculer. Décider de jouer autrement. Cette œuvre que je n'ai pas envie de jouer dans une semaine, eh bien, je vais l'interroger. Je vais lui dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je suis là, justement? Qu'est-ce que je pourrais changer pour retrouver la clé du désir? Donc, c'est un travail sur le désir. Voilà. Chaque jour. Il faut se lever, mais il y a beaucoup de métiers qui sont plus lassants que celui-ci. Se lever le matin, puisqu'on a commencé cette émission avec le lever. Et puis, savoir que l'on n'est qu'un étudiant et que l'on ne sait pas grand-chose du monde et qu'il faut toujours se remettre en question. Oui, comme un étudiant.
C'est très réconfortant comme pensée, le désir se travaille. Continental, joué par le duo Viennert et Doucet, dont vous avez repris, Alexandre Tarot, plusieurs morceaux et arrangements dans l'album Le Bœuf sur le Toit, du nom du cabaret musical parisien où l'on pouvait souvent les trouver pendant les années folles. Et dans votre dernière sortie, Cinéma, il y a deux morceaux signés par Jean Viennert, Touchez pas au Grisby, arrangé par Michel Legrand, et Lettre d'amour en Somalie. Je crois que vous aviez copié tout leur coffret à l'époque du Bœuf sur le Toit, ça s'appelait.
Oui, parce que ces deux pianos, là, on vient de les entendre, ce duo de deux pianos, Jean Viennert qui était minuscule, un peu comme moi, tous mes grichons, et Clément Doucet qui était énorme, c'était vraiment assez drôle de les voir jouer ensemble. Et ils ont parcouru le monde, plus de 2000 concerts quand même, dans lesquels ils jouaient du jazz, et en première partie du Bach et du Mozart, des compositeurs classiques. Jean Viennert a été un très grand compositeur, un acteur de la musique en France incroyable, il a créé les concerts Viennert, au Théâtre des Champs-Élysées, où il a fait jouer du Schoenberg pour la première fois en France. Après la guerre, il est devenu un compositeur de musique de film, de grand talent. Et voilà, je l'adore. Je trouve que ces musiques des années 20, comme on vient d'en entendre quelques bribes, nous mettent en joie. Voilà aussi une musique qui nous fait du bien et que l'on peut écouter au lever. Il y a toute la folie des années 20, on sent les...
Enfin, c'est fou,
en quelques secondes. La fantaisie, ces bars interlopes, ces balles masquées, la libération de la femme, tout Paris qui exultait de joie. On sent tout ça dans leurs doigts.
Alexandre Tarot, vous avez retranscrit d'oreille à la note près plusieurs de leurs arrangements.
Ben oui, parce que c'était improvisé.
Existait.
Ouais. Ouais. Donc j'ai réécrit les partitions d'oreille, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis heureux d'en avoir enregistré quelques-unes.
Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons que seul corps. Et le feu sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois nos corps soulevés sont la veine sur un boulot. Et retombent tous deux enivrés, épanouis et heureux. Je veux courir avant les paroles, c'est dingue ça, ça m'énerve.
La chanteuse béninoise Angélique Kidjo, pendant votre tournée du spectacle Les mots d'amour, mis en scène par Vincent Huguet et présenté au Châtelet en juin dernier, fait partie de votre panthéon. Là, on entend un extrait qui était sur votre chaîne YouTube, où elle a eu un trou de mémoire.
Ouais, c'est drôle.
On a hésité parce qu'on s'est dit, c'est à la fois pas gentil pour elle de le mettre, mais en même temps, nous, on trouvait ça très charmant, justement.
On entend comment elle rebondit avec un sens de la scène, mais incroyable, unique. Et une voix, une rage de vivre et beaucoup d'humour aussi.
Bah justement, on trouvait ça très joli, la façon dont elle se reprend, elle assume, elle a de l'humour, elle reprend immédiatement. Enfin, c'est assez fort. Vous l'avez mis dans votre panthéon, Alexandre Tarot. Comment cette collaboration vous a-t-elle enrichi ?
J'ai participé à une carte blanche qu'elle avait au Festival de Saint-Denis il y a quelques années, en l'accompagnant sur deux chansons.
Alors, dont Barbara.
Oui, c'est ça, de Barbara et de d'Aznavour, je crois. Elle savait que j'avais une passion pour la chanson française et que j'ai très rarement, là on en parle, mais au fond j'ai trop rarement l'occasion d'en jouer de la chanson française, ce n'est pas mon métier. On me demande rarement pour faire ça. Et donc on a fait ces deux chansons et puis tout de suite après on s'est dit il faut absolument qu'on fasse un spectacle ensemble. Et elle l'a très peu chanté en français, donc on est parti sur une liste de chansons, des chansons qui parlent de l'amour, depuis Joséphine Baker jusqu'à aujourd'hui, Pierre Lapointe ou Dominique A. Et on a fait un programme comme ça qui parle d'amour de manière différente, donc la séparation, l'éloignement, etc. Le coup de foudre. Et on a commencé une tournée qui finalement ne s'arrête pas puisqu'on a encore pas mal de dates l'année prochaine et ça fait déjà 2 ans qu'on a commencé. Et c'est bien agréable aussi, les gens sont debout. J'aimerais en faire plus, mais Angélique donne tellement de concerts à travers le monde, il est très difficile de trouver des dates communes.
En tout cas, il y en a une de sûre, 23 avril 2023 à l'Auditorium de Lyon.
be too late, too late, too late, too late. No, I'm never there, I never left. I've been waiting for an answer to a question never met.
Le morceau Segway du groupe Sonne dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie d'Alexandre Tarot.
La caractéristique du bouddhiste, de l'enseignement de Bouddha, est d'aller au-delà des choses. Les choses, c'est-à-dire les différents êtres et les différentes idées que nous avons.
Extrait d'une conférence donnée par le maître zen japonais Shunryu Suzuki au centre de Tassajara à San Francisco en juin 1970. Son livre « Esprit zen, esprit neuf » paru la même année et selon vous, Alexandre Tarot, le livre que tout le monde devrait lire pour être armé dans l'existence. Vous pratiquez le zen depuis 25 ans.
Alors, je ne sais pas si c'est le livre que tout le monde devrait avoir, mais... il est tombé devant moi, ce livre. En fait, j'ai fait une dépression à 28 ans. Et je ne pouvais plus habiter chez moi, donc j'allais chez les uns, chez les autres. Et à un moment, j'ai dû rester un ou deux mois chez une amie, Gabrielle, qui habitait avec un Japonais, justement, au Japon. Et j'étais là et je regardais ses livres, donc j'étais à peu près à 80 centimètres des étagères où il y avait des livres. Et celui-ci est tombé à ce moment-là devant moi. C'est-à-dire que je n'ai même pas soufflé dessus, je n'ai pas touché les étagères, encore moins ce livre. Il est tombé à ce moment-là, au moment où j'étais en train de regarder ces livres, voilà, la bibliothèque, et il est tombé par terre à mes pieds, devant moi. Alors je l'ai ouvert, et je l'ai pris d'ailleurs, cet exemplaire que j'ai là dans les mains, vous voyez, et j'ai commencé à lire. Des mots très simples de ce grand maître japonais qui s'était installé donc dans les années à la fin des années 60 aux États-Unis. Et j'ai lu ça. Alors après, j'ai acheté plein d'autres livres sur le zen, mais c'est celui-ci qui est resté en quelque sorte ma bible parce que c'est celui que j'ouvre d'emblée quand j'ai besoin de retrouver une voie plus juste.
Dans votre livre Montrez-moi vos mains, vous écrivez chaque jour tout est à réapprendre, je me réveille débutant.
Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Bah oui, et c'est ce qu'il prône dans ce livre.
Oui.
Ce n'est pas effrayant, il y a quelque chose de vertigineux dans le fait de tout recommencer à chaque fois. Ce qu'il y a de frappant dans ce livre...
Je crois pas que ce soit vertigineux.
Ah oui ?
Justement, c'est ça la vie. Hein.
Oui, c'est ça, mais c'est terrifiant. On se crée des illusions toujours pour ne pas voir ce vide.
Mais c'est pas un vide, c'est un vide ou un plein. Hein. Le zen ne nous amène pas à devant un puits sans fond, on est ou au bord d'une falaise. Le zen nous amène à avoir un monde intérieur aussi vaste que le monde extérieur, que notre monde extérieur, et les faire se communiquer dans la plus grande des fluidités. Et donc on n'est pas dans du vide, bien au contraire. Et c'est là qu'on se rend compte. Quand on pratique le zen, que ce que l'on fait, prendre le métro, acheter sa viande, aller chez le dentiste ou découper du pain, bah c'est ça qui est vide. Travailler, c'est souvent bien plus vide que méditer.
Il y a quelque chose qui semble paradoxal quand on lit ce livre, c'est que en fait, il faudrait pratiquer le zen sans but.
Ah bah oui. Ça, c'est certain. Mais
sans rien en attendre.
Vous voyez, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que moi, j'étais à l'époque, donc j'avais 28 ans, j'étais aux antipodes du zen. Je ne savais même pas, enfin, je savais que ça existait et c'est tout. Et ce que j'ai aimé avec ce livre, c'est qu'il m'a pris par la main, il m'a dit au fond, mais non, tu te mets sur une chaise. Et voilà, tu es déjà dans sa zen, si tu es assis comme ça et que tu ne décides de rien. Et donc ça a été une première leçon facile, c'était un peu le zen pour les nuls, mais si vous voulez, c'est ce qui m'a permis de commencer sur cette voie.
Nous mettrons évidemment les références sur le site internet. extrait du concerto numéro 5 de Beethoven dit L'Empereur par Alfred Brendel au piano et l'orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Simon Rattle. Je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie, Alexandre Tarot, et vous avez répondu, entre autres, enregistrer les 5 concertos de Beethoven. Votre premier album de Beethoven, c'était en 2018, c'était ses 3 dernières sonates. Et on trouve des vidéos où vous jouez les concertos 2 et 3.
Oui, possiblement.
Vous allez vous appliquer à exécuter ces projets?
Si j'y arrive, oui. Mais vous voyez, on vient d'entendre Alfred Brendel, c'est tellement magnifique. Quand on est pianiste, on a une responsabilité tout de même. À quoi ça sert d'enregistrer une œuvre qui a été déjà enregistrée par les plus grands et depuis un siècle que, à peu près, que le disque existe. Donc les 5 concertos de Beethoven, ils ont été enregistrés de manière magistrale par certains, dont Alfred Brendel. Donc à quoi ça sert? Est-ce que j'ai vraiment une légitimité? Est-ce que... Donc je me pose beaucoup de questions, mais j'aimerais bien le faire dans les, on va dire, dans les 20 ans qui viennent.
Dans les autres désirs, il y a mourir heureux. Alexandre Tarot, heureux pendant que vous mourrez ou mourir à une période de votre vie où vous êtes épanoui?
Ah bah les deux, tant qu'à faire. Mourir d'un coup sec comme ça en rigolant, ce serait pas mal. Mais aussi, je pense qu'il faut mourir apaisé, il faut passer les dernières années de sa vie si possible heureux, en effet, en ayant calmé ses colères, en ayant rappelé les gens avec qui on s'est fâché tout au long de sa vie. J'en ai pas beaucoup, mais voilà, de calmer les blessures, prendre du recul.
Je vous ai demandé ce que vous aviez raté et vous avez répondu, ma musculature.
Oui, bah oui.
C'est un corps que vous ne semblez pas aimer, en tout cas dans la façon dont vous le décrivez, dans Montrez-moi vos mains. Vous ne vous êtes pas réconcilié avec ce corps?
Si, je me suis réconcilié, mais je ne l'aime pas.
D'accord.
J'ai un corps coupé en deux, j'ai un bas solide et un haut très fragile. Alors, au fond, là aussi, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que je m'en sers de ce corps. Ces jambes que j'ai solides, elles me permettent d'être attachées au sol, d'être rattachées au sol. Quand on est artiste, qu'on voyage dans le monde entier, on a vite justement la tête dans les nuages où on perd le contact avec la réalité. Aussi, artiste de scène, on est facilement entouré de plein de gens qui vous disent « Oh, c'est merveilleux, les gens qui n'ont pas aimé, ils viennent pas vous dire ce que vous faites est horrible. » Donc on peut vite, on a besoin d'être tout le temps ramené au sol. Mes jambes, elles m'aident à ça. Elles m'aident à courir, elles m'aident à marcher, elles m'aident à garder l'espoir. Quand le haut est plutôt malade ou chétif, pas content, eh bien voilà. Et puis un haut fragile, on peut s'en servir aussi. Je suis pianiste, et bien j'ai un son qui ne ressemble pas aux autres pianistes parce que ce son provient de ce corps-là.
Donc vous ne l'aimez pas, mais peut-être éprouvez-vous un peu de tendresse ou de reconnaissance.
Pas, on n'a pas le choix. Hein.
Non, bah oui, ça c'est sûr. Mais vous n'avez pas de désir de le modifier?
Bah à mon âge, c'est un peu difficile, je ne vais pas commencer à rentrer. Et les pianistes qui font de la musculation ont souvent un son qui se détériore.
Ah oui?
Ouais. Le sport est d'ailleurs souvent très dangereux pour les pianistes.
Oh là là, je vais tout de suite devenir pianiste. On arrive, Alexandre Tarot, à l'engagement de fin d'émission. Vous êtes le premier invité qui n'a pas répondu. Vous avez dit « je ne sais pas » à définir le jour de l'émission.
Ah mais je ne sais pas. Vous savez...
un tout petit engagement.
Peut-être être plus bienveillant. Parce que quand on est soliste, on n'est jamais là. On n'est jamais assez là pour les proches, les amis, la famille, les voisins. Je peux vous parler de mon chauffeur de taxi tout à l'heure, exécrable, mais c'est vrai qu'il y a du boulot à Paris. Hein. Je vous donne un exemple. Il y avait dans mon immeuble, j'habite près de Bastille, une dame âgée qui habitait l'étage en dessous. Autant dire à un mètre de mes pieds. Et cette femme-là, personne n'allait la voir. Je sais qu'elle avait un fils qui venait de temps en temps. Elle était très gentille, assez noble, comme ça, avec un port du dos très, très beau. Et puis elle est morte. Et je m'en suis voulu de pas avoir vu qu'elle allait mourir. Elle est certainement morte chez elle, mais... Alors qu'elle était à côté de moi, et je trouve ça assez, assez triste qu'on n'aille pas vers les personnes âgées qui sont souvent seules. Voilà. Alors maintenant, c'est un peu trop tard pour que j'aille la voir, vous me demandez un engagement.
Mais il y en aura d'autres.
Voilà, exactement.
Il y en aura d'autres. Merci beaucoup, Alexandre Tarot, d'être venu.
C'était bien agréable.
Je vais annoncer votre actualité sur votre reprise du morceau de Michel Legrand, figurant dans le film Les Demoiselles de Rochefort, qu'on peut trouver sur votre nouvel album Cinéma, sorti avant-hier chez Warner Classics. Et d'ailleurs, vous serez en concert pour jouer le programme de cet album le 23 octobre avec l'Orchestre National de Bordeaux à Soustons. En novembre, le 12 à Montauban, le 17 à Amiens, le 19 à Aurillac et le 24 à Bourgoin-Jallieu. Vous serez également en concert le 30 novembre au Théâtre des Champs-Élysées et le 6 décembre à l'Opéra de Rouen. Et votre spectacle Les mots d'amour avec Angélique Kidjo sera joué le 23 avril 2023 à l'Auditorium de Lyon. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous, sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme vibre comme l'onde frénétique d'une bulle de soda indépendante. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.